Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau Comics Weekly, épisode 28. Je suis Steve, toujours malade, et je suis avec...
Mister René Bunny, qui va très bien. Merci.
Voilà, tant mieux. Tant mieux, ça en fait un sur deux, c'est là, dans la moyenne.
Le compte est bon. Bah oui, le compte est bon, puisqu'il en faut toujours un qui est mort, comme moi, quelques fois, durant les enregistrements. Donc,
donc semaine du 1er décembre, donc les premières sorties du mois de décembre, avec un programme assez intéressant, finalement, cette semaine. On y viendra tout à l'heure. On commence, comme d'habitude, avec le numéro de la semaine. Et donc, cette fois-ci, c'est toi qui commences, Benny.
Oui, alors on va commencer avec le Black Panther numéro 28, puisque nous sommes la semaine 28 de Comics Weekly. Donc, alors c'est un épisode assez sympathique. On voyait Black Panther, La Chose, Johnny Storm et Storm, qui partaient donc sur une planète Skrull. Et il se trouve que cette planète Skrull est en même temps envahie de zombies, de Marvel zombies. Donc voilà, donc c'était assez drôle de voir en fait la confrontation entre les Skrulls et les Marvel Zombies. C'était le début, je crois, d'un arc en trois, et voilà, plein de moments assez comiques, notamment Johnny Storm qui retrouve Lyra, pas mal de choses, quoi. Pas mal de moments sympathiques avec les Skrulls qui essayent de se sauver en vaisseaux spatiaux et il y a Giant Man Zombie qui les attaque, enfin voilà. Donc un numéro assez fun en fait. Pour une série que j'ai pas trop suivie, mais en tout cas, on retiendra cet arc-là.
D'accord, très bien. De mon côté, j'ai choisi le Outsiders volume 1, numéro 28, qui date de février 1988. Bon, ça, c'est la date, la cover date, donc ça a dû sortir en décembre 87, en fait, en réalité.
Ah, peut-être que... Je sais pas si avant, ils étaient en avance, au fait, comme maintenant.
Si, déjà. Ça a dû commencer dans les années 70, de mémoire.
Ah, d'accord.
Chose comme ça, 60-70. C'était écrit par Mike Barr et dessiné par Eric Larsen. Oui.
Des gens un peu connus quand même.
Voilà, le fameux Larsen de Savage Dragon. Donc c'était la première incarnation de l'équipe en solo sans Batman, puisqu'avant on avait eu Batman and the Outsiders, où il était chef de l'équipe, puis ils se sont séparés, les Outsiders ont vécu dans leur propre série. On avait notamment Geo-Force, Black Lightning ou encore Katana dans des personnages très connus dans l'équipe. Et donc, ce numéro 28 est le dernier de la série, avec disparition des pouvoirs de Looker, qui est un des membres de l'équipe, et puis Halo, qui tombait dans un coma à la fin de cet épisode. Ça se passait pendant le crossover de l'époque, Millennium, donc ouais. Ce crossover en 8 semaines. Et voilà, donc c'était la fin de l'équipe et de la série, puisqu'à la fin, l'équipe décide de se dissoudre, puisqu'ils ont subi trop de pertes, et qu'ils en ont tous un peu marre de cette vie-là. L'équipe reviendra ensuite en 93, toujours écrite par Mike Barr, avec notamment toujours Geo-Force, Halo, enfin pas mal de personnages de la première équipe. L'équipe continue toujours d'exister, elle sort aujourd'hui chez DC toujours, on en est au volume 4. la série qui a du mal hein, quand même. Et elle est écrite par Dan DiDio notamment. Donc, voilà.
Oui, bah d'ailleurs on va parler d'une série qui en est à l'un de ses volumes, peut-être 3 ou 4, je sais plus, ça, on verra ça tout à l'heure.
Volume 3.
Volume 3, d'accord.
Donc voilà, c'était parce que c'était la fin de l'équipe, en tout cas de sa première incarnation. Donc c'était l'épisode qui m'est venu à la tête avec le numéro 28. On passe maintenant aux news, Benny.
Oui, alors news Marvel pour commencer. Marvel a refusé à Brendan McCarthy, dont nous parlait Quakey, il n'y a pas si longtemps, de faire une suite à Spider-Man Fever. Donc c'était le Spider-Man Fever où Spider-Man faisait équipe avec Doctor Strange.
Le fait.
Voilà, le fameux qu'on a pas retrouvé tout de suite, on n'a pas cité, on savait pas de quoi il parlait exactement, et puis bah, au fait c'était de ça, quoi, de Brendan McCarthy. Eh bien, Brendan McCarthy avait prévu une suite qui devait s'appeler Carnival of Light. Il a publié d'ailleurs quelques planches déjà, mais apparemment, ça ne verra pas le jour. Voilà.
Ah, qui sait, peut-être un jour dans la nouvelle collection que nous sort Marvel, des choses qui n'ont jamais été publiées.
Voilà, From the Vault.
Ah, c'est ça, je cherchais le titre, merci.
Ouais. Et peut-être. Mais en tout cas, il faudra peut-être attendre quelques années, puisque pour le moment, c'est quand même des projets assez anciens qui y sont publiés, mais bon, pourquoi pas, hein. En tout cas, c'est une idée. Ensuite, toujours chez Marvel, récemment, on a eu un petit teaser Edge of X. Alors, un teaser qu'on pouvait avoir, au fait, à partir d'un QR code. Donc, QR code. Tu sais, c'est ces fameux codes qu'on a sur des codes barres et qu'on peut saisir avec des smartphones, pour ensuite avoir un lien internet qui nous amène vers une image.
Oh putain, c'est pas complexe du tout, ça.
Donc voilà.
Des fois, vive la technologie, quoi.
Voilà, c'est cela. Et bah évidemment, de toute façon, maintenant cette image teaser a été publiée un peu partout sur les sites de news américains et français. Et au fait, on y voit le fauve et on peut lire que le fauve a été battu à mort et qu'il est décédé. Donc alors en fait, à mon avis, ça aurait eu bien plus d'impact si Marvel ne nous avait pas déjà au fait révélé que Age of X se déroulait dans une dimension parallèle, puisque dans ce cas-là, on pourrait croire qu'effectivement le fauve pourrait y passer. Alors que là, on sait très bien que bah, ça risque fort de faire partie de l'univers parallèle, au fait.
Ouais, alors peut-être que en faisant ce genre de teaser, Mike Carey ne s'embarrassera pas de nous raconter toute l'historique dans le comic. J'espère qu'on n'en viendra pas là parce que ce serait un peu dommage, quoi.
Non,
Même si c'est un moyen de faire sortir les lecteurs du comics pur et de les obliger à aller faire des recherches sur Internet ou de retenir les teasers qu'ils ont vus par-ci par-là. Moi, je suis pas forcément pour.
Ensuite, autre news, on va passer à DC. Alors chez DC, mais là en fait c'est même pas DC d'ailleurs, on ne sait pas pour le moment, puisque Mark Millar a simplement révélé en fait son prochain dessinateur sur son prochain projet, ce sera Dave Gibbons, je ne sais plus comment on le prononce.
Avec un gui.
Ouais.
C'est la saison. Ah
Ouais.
ah! Ah ah ah!
Bon.
Voilà, c'était la vanne du jour.
Très bien. Donc, mais pour le moment, on ne sait rien de plus que le fait que ce soit Dave Gibbons qui sera au dessin. C'est son nouveau projet pour 2011. Et en fait, il compte révéler des choses à la Kapow Comic Con. Donc, bah, soyez là, hein, à Londres. Alors, je ne sais plus, c'est les 13 et 14 avril, je crois.
Je crois que c'est les 10 et 11 avril, mais...
10 et 11. Bon, alors, 10 et 11 avril, oui, je confondais avec les dates du LCF. 13 et 14. Donc, voilà. Donc bah soyez là, hein, peut-être que Mark Millar fera des révélations fort intéressantes.
Et pourquoi tu penses que c'est chez DC? Parce que Dave Gibbons?
Ben non, mais au fait voilà, parce que j'ai vu Dave Gibbons, c'est je te dis DC, mais pas du tout au fait. On ne sait pas. On ne sait pas. Ça peut être n'importe où. Ça
À
peut
mon
être.
avis, je pense que ce sera chez Icon,
Oui,
hein.
de toute façon. Mais ouais, très certainement, de toute façon. Mais pour le moment, en tout cas, rien n'est dit. On continue avec de l'indé chez Image. Chez Image, tu te rappelles, on a eu toute une série de teasers absolument incroyables, enfin incroyables, absolument bizarres plutôt.
Incroyable au niveau du nombre, ouais.
Oui, voilà, exactement. Plus d'une vingtaine, je crois, 25 au total, il me semble. Tout cela, c'était pourquoi? C'était pour annoncer la nouvelle série de Joe Casey et Mike Huddleston. Alors, il s'agit au fait de Butcher Baker, The Right House Maker. Donc, déjà, super titre. Voilà, ça semble toujours aussi space. Joey Casey a donné plusieurs interviews, donne quelques petites précisions sur ce titre, mais ça reste toujours assez nébuleux. À voir donc ce que donnera le premier numéro de Butcher Baker, The Right House Maker. Peut-être même qu'on en parlera dans Weekly, mais je ne sais pas. On verra. On verra. C'est un
Bah, à
petit
ce moment-là,
peu.
peut-être tu en parleras parce que moi je dois avouer que c'est quelque chose qui m'intéresse absolument pas. Donc,
Moi non plus, mais bon.
honnêtement, je t'avouerais même que cette série de teasers m'a même dégoûté, je n'ai même pas envie d'aller voir, du coup.
Ouais, non, c'est vrai que c'était largement trop. Alors, est-ce que tu as déjà entendu parler de James Stokoe, justement?
Pas du tout.
Alors, James Stokoe, il faut savoir qu'il fait une série Image qui s'appelle Orkstein chez
Ah,
Image.
je connais de nom.
Voilà, Orkstein chez Image. Et ce James Stokoe, eh bien, au fait, il avait un autre projet qu'il avait dans ses tiroirs depuis bien des années, qui s'appelle Murder Bullets. Et Murder Bullets, eh bien, il le propose sur son blog. En fait, on peut lire 102 pages de Murder Bullets sur son
Putain.
blog. Bah alors là, il faudra absolument pas que j'oublie de mettre le lien, parce que en allant sur son blog, vous pourrez lire donc ce projet quand même de 102 pages. C'est quand même pas mal, quoi. Tout ça gratos.
C'est sympa.
C'est l'occasion surtout de découvrir cet artiste et peut-être ensuite de s'intéresser à ses œuvres qu'il publie chez Image pour l'instant.
Très bien.
Bon. Eh bien, on va passer à DC, cette fois-ci vraiment DC, avec Batman Inc. 4, qui ne sera pas dessiné par Yannick Paquette, mais qui sera dessiné par Chris Burnham, mais surtout, en remportant une enchère sur eBay, tu pourras Steve et tous les autres figurer dans Batman Inc. numéro 4, c'est-à-dire que Batman te sauvera. Chris Burnham te dessinera et en train d'être sauvé par Batman. C'est formidable.
La question, c'est ai-je envie d'être sauvé par Morrison?
Voilà, c'est surtout ça, voilà, puisque Morrison sera au scénario, bien sûr. Et
Même si j'ai beaucoup aimé Batman Inc. Hein. Je reviens pas sur mon avis, mais voilà. Ai-je envie d'être sauvé par Morrison?
Donc voilà, bah c'est moyennant une enchère sur eBay en tout cas, tu peux l'être, tu seras
Ouais, enfin,
décidé.
le LCF m'ayant mis à court, je crois que j'irai pas participer à l'enchère.
Et moi non plus, non, malheureusement, je pense que là, je repasserai. Hein, parce que voilà, mais en tout cas, bon, une initiative un petit peu à la Millar, hein, c'est assez marrant, ces auteurs qui, au fait.
Et juste une petite question comme ça, a-t-il été fait mention d'à qui sera reversée la somme totale de cette enchère, quoi? Est-ce que
Bah,
Van
écoute.
Morrison va le mettre dans sa poche, ou est-ce qu'il va redonner ça à la Hero Initiative ou une autre association du même type
Écoute, là pour le moment, je dois dire que ce n'est pas signalé, ce n'est pas expliqué vraiment où va cet argent. Je ne sais pas. Voilà, c'est la grande question. C'est Reed
bah,
Johnson qui nous met au courant de ça sur Bleeding Cool. Voilà, bon. Mais où va l'argent, je ne sais pas. Je ne sais pas.
Bon bah j'espère que ça va ira à une charity comme ils aiment tant ça les Américains.
Ouais.
Et pas dans la poche de Morrison directement, ce serait un peu
Bah oui, ce
salaud.
serait bien que
Voilà.
ce soit plutôt pour les auteurs ou enfin voilà. Mais je pense, hein, je pense. Enfin, j'espère.
Bah je pense aussi, enfin j'espère quoi. Bref, bon. Passons.
Mais voilà, bah, c'est tout pour les news de cette semaine. Petite semaine de news.
Ouais. Bah, c'est très bien, enfin il y en a quand même.
Oh, il y en
Il y
a
a
quand
quand
même,
même
il y
de
a
la
quand même
news.
des choses intéressantes.
Voilà, très bien. Donc on va passer à la double review de la semaine. C'est Heroes for Hire, volume 3, numéro 1. Dan Abnett et Andy Lanning au scénario, Brad Walker au dessin, Andrew Hennessy à l'ancrage.
Et bah déjà, là, rien que pour la team, ça donne envie quand même.
Ouais. Donc moi je dois dire que déjà quand j'ai commencé à lire ce truc, j'étais pas du tout, mais pas du tout objectif. DNA au scénario, forcément, je me dis ça va être un truc génial. Quoique ça aurait pu jouer des tours. Ça peut jouer des tours en se disant on attend un truc génial et que c'est une totale merde.
Oui,
Bon,
mais tout à fait. Non, mais moi, je partais, voilà, je me suis dit, bon, ils peuvent se planter aussi, hein.
Ah non, moi je n'ai même pas envisagé le truc, mais ça aurait pu être le cas, ou c'est peut-être le cas, vous allez le savoir en écoutant cette review. Quel teasing, t'as vu ça, magnifique. Donc bah écoute, je te laisse en parler, hein. Vas-y.
Bah écoute, grosso modo, on voit différents membres des nouveaux Heroes for Hire être appelés par une mystérieuse réceptionniste, on va dire une mystérieuse plutôt.
Bah une sorte d'oracle hein, finalement
Oui, une sorte
chez Marvel
d'oracle
quoi.
à la Marvel. Alors, on devine vite qui c'est.
Ah bah dès la première page on devine qui c'est. Enfin, quand on connaît un tout petit peu l'univers, on sait qui c'est tout de suite, quoi.
Exactement. Elle n'est pas montrée, au fait. C'est assez bizarre, elle n'est pas montrée directement.
Alors, moi ça m'a gêné, tu vois, je me suis dit pourquoi ils essayent d'entretenir le suspense alors qu'on sait tous, enfin, en tout cas, j'imagine que beaucoup de gens qui s'intéressent à cette série savent qui est cette personne, quoi. Donc bon, on va laisser planer le suspense au cas où, mais enfin voilà, moi j'ai trouvé ça un petit peu dommage au début. Je me suis dit bon, c'est bizarre quoi de ne pas nous la montrer alors que la première lettre est donnée par Falcon au départ, elle le coupe tout de suite quoi. Mais bon, enfin on a deviné quoi, juste avec la bouche on devine.
Exactement.
C'est la boucle d'oreille moi qui m'a mis sur, bon la couleur de peau aussi, mais surtout la boucle d'oreille et la bouche qui m'ont mis sur la voie.
Et bien en tout cas, donc on assiste par exemple à une intervention de Moon Knight, qui est appelé par cette personne pour intervenir dans un entrepôt de trafiquants.
Ça commence par Falcon et
Ah oui, c'est vrai, ça
Mercurio
commence par Falcon.
qui arrête un camion qui va livrer de la drogue.
Avec Black Widow. Voilà. Ensuite, Moon Knight, et puis en dernier lieu, rappelez-moi Steve, je ne sais plus.
Electra.
Electra, voilà, exactement. Donc, ils sont tous en fait sur différentes affaires qui peut-être ont un lien d'ailleurs entre elles. En tout cas, voilà, on assiste à leurs interventions. Alors j'ai trouvé ça un peu dommage déjà que on ne voit pas tous les membres de l'équipe dès le premier numéro. Moi, ça.
En même temps, ça avait été clairement dit à l'époque où on nous avait parlé de la série, ce sont une équipe, mais ils ne savent même pas qu'ils sont une équipe. Donc moi, ça m'a pas choqué.
Bah moi si, parce que à partir du moment où tu les vois tous sur la couverture, tu t'attends à ce que dans le contenu tu les vois quand même, ne serait-ce qu'une page, quoi.
Moi, ce que je trouve regrettable, c'est qu'on ne voit pas tous les membres qui sont sur la couverture, et notamment Ghost Rider qui est en plein centre de la couverture, il ne fait pas une seule apparition dans ce numéro. Ça, par contre, ça m'a gêné.
Ah, c'est exactement ce que je viens de te dire.
Ah d'accord, excuse-moi, j'avais pas compris ça comme ça. Bon bah autant pour moi. Mais
Exactement de te dire, c'est oui, ce qui me gêne, c'est effectivement tous les gens qui sont sur la couverture, on ne les voit pas tous dans le comics.
Ah j'avais pas compris ça comme ça. J'ai cru que tu disais qu'ils ne travaillent pas tous en équipe ensemble en même temps.
Ah non,
C'est pour
du
ça,
tout.
d'où ma confusion.
Ça non, ça je m'en fiche, c'est pas le propos. Non, non, du tout.
Non, mais bah, pardon, c'est ma faute. Je suis à côté de mes pompes, en même temps, je suis malade.
Ouais. Mais tu es tout excusé.
Ah, mais c'est gentil, merci.
Voilà, de rien. Donc, continuons. Voilà, oui, donc.
La review qui part en live.
Mais non, mais le truc, c'est que voilà, oui, je suis entièrement d'accord, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire le gros problème, c'est que par exemple, j'aurais bien aimé voir, ne serait-ce que sur une page Ghost Rider, un petit peu, et là, bah, on le voit pas, hein. De toute façon, on peut le dire, puisque c'est quand même la petite déception de ce numéro, on ne voit ni Ghost Rider, ni le Punisher, par exemple.
Par contre, Ghost Rider sera là dans le prochain numéro.
Ah, bah, j'espère bien, oui,
Bah,
théoriquement.
si tu regardes la cover du
Oui.
numéro 2, oui.
Bah oui, mais si tu regardes la cover du
Bah,
premier, tu peux
ouais,
penser
mais
aussi.
enfin, vu qu'il n'y a que deux personnages sur la cover du numéro 2 et qu'il y a Ghost Rider, il sera forcément dans le numéro.
Ouais, à moins qu'ils se foutent vraiment de nous, là, c'est pour le coup, quoi. Mais en tout cas,
Et ben, on leur cassera la gueule. Et ben,
en
voilà.
tout cas, les dessins de, rappelle-moi son nom, j'ai oublié du coup,
Brad Walker.
sont, alors, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, sont vraiment extraordinaires, je trouve.
Moi j'ai trouvé ça sympa, j'ai pas trouvé ça extraordinaire, mais j'ai trouvé ça sympa, quoi.
Moi, j'ai trouvé
Voilà.
ça super péchu et vraiment.
Bah, Brad Walker, de toute façon, on l'avait vu sur Guardians of the Galaxy, quoi, donc
Ouais, mais
voilà,
là,
c'est.
là, j'ai l'impression qu'il est encore meilleur.
Bah, je t'avouerai que j'ai pas prêté une si grande attention que ça au dessin parce que j'ai été captivé par l'histoire.
Et alors donc, du coup, l'histoire, on pourrait penser que c'est juste l'intervention de quelques personnages sur différentes affaires, mais il y a quand même un twist.
Ah oui, et quel twist. J'ai pris une claque, mais une claque à la fin. Ça m'a retourné le cerveau. Honnêtement, j'ai refermé le comic et je ne savais plus où j'étais. Honnêtement, ça m'a.
Parce que tu es malade, Steve.
J'ai totalement adoré cette fin qui m'a laissé, mais alors, 1 milliard de questions. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Si oui, pourquoi et comment? Enfin, voilà. J'avais pas eu autant de questions à la fin d'un épisode depuis, mais bien, bien, bien longtemps.
Oui, c'est le meilleur twist depuis peut-être le Thunderbolts numéro 1.
Peut-être, ouais. Ouais,
Enfin
effectivement.
voilà, en tout cas c'est dans la même veine, quoi. C'est vraiment la grosse surprise de fin d'épisode. Premier épisode,
Ouais.
paf, on se prend un truc dans la tronche, comme tu dis.
Et cette fin me laisse vraiment plein de questions. Comment c'est possible? Comment les choses marchent? Enfin, je ne comprends pas.
Oui.
Je ne comprends pas et j'ai hâte de ce numéro 2
Oui,
parce
bah
que je veux
parfait.
savoir, quoi.
Pareil, pareil. Donc au fait, le fait que on ne voit pas tous les personnages qui sont sur la couverture est totalement, comment dire, balayé
Éclipsé, ouais.
par cette fin qui est quand même grandiose et donc qui fait que bah, c'est forcément un bail.
Oh bah, totalement, oui, totalement. Franchement, je vous encourage vraiment à lire cet épisode et surtout cette fin qui est excellente.
Précisons aussi qu'il y a une chronologie au fait des précédents volumes de Heroes for Hire et
Ouais,
c'est
Marvel
vachement utile,
Saga,
je
quoi.
trouve.
Un Marvel Saga comme ils font souvent avec le numéro 1, quoi.
Voilà. Et c'est vachement utile pour les gens qui, comme moi, n'ont pas lu beaucoup de Heroes for Hire, je dois le dire. Par le passé, et du coup, bah voilà, hein, ça fait un bon résumé, quoi, de tout ce qu'on a à savoir.
Autre chose, moi, que je me demande à la lecture de ce numéro, mais que vient faire ce fameux personnage qui espionne tous les autres?
Aussi, oui, bien sûr.
Sera-t-il leur sauveur ou pas?
Au
Enfin,
contraire.
voilà, plein de choses comme ça qui, franchement, pour moi, c'est vraiment, vraiment, vraiment super bon et la meilleure lecture que j'ai faite cette semaine sans comparaison possible avec le reste.
Hands down, donc, je dirais.
Totalement.
Oui, bien, tiens. Voilà. Mais écoute, pour moi aussi, bah, je pense que du coup, on peut passer au double review. Non, au review solo, justement, c'est le
Oui,
contraire.
bah oui. Et donc, numéro pair, c'est toi qui commences, donc je t'en prie.
Voilà. Et je vais commencer par le Action Comics Annual 13. Alors, le scénario est bien sûr de Paul Cornell. Il y a deux petites histoires. On va commencer par la première, ce qui est logique. Les dessins sont de Marco Rudi. Alors ça nous montre au fait cette fois-ci un Lex Luthor jeune, et c'est au fait son arrivée à Metropolis. Et c'est vraiment intéressant d'ailleurs de voir comment il est arrivé au stade de super méga homme important. Je ne sais pas comment le dire. Voilà, on va le dire comme ça, super méga homme important dans Metropolis. Donc au fait, au début, il va dans une sorte de nightclub où il rencontre Perry White. Perry White qui est super jeune à l'époque aussi, par rapport au Perry White de maintenant.
Perry White jeune, c'est possible? Parce que pour moi, je le vois toujours vieux.
Ben, ou Perry White.
Enfin, vieux, en tout cas, au moins la cinquantaine, quoi.
Oui, bah là, Perry White, il a la quarantaine, quoi, on va dire.
Perry
Et
White, c'est comme, pour moi, c'est comme Jonathan Kane, tu vois, c'est ce qu'on appelle la father figure, tu vois, l'image du père, et je peux pas l'imaginer jeune, en fait, ce gars.
ben écoute, là, pourtant, voilà quoi. Dans le Action Comics Annual 13, tu auras la représentation de Perry White jeune. Enfin, plus jeune. Et en fait, Perry White est là parce qu'il enquête justement sur ce mystérieux nightclub où il y a des choses bizarres qui s'y passent. Et Lex Luthor bah, va percer à jour le mystère plus rapidement. Et au fait, il va s'apercevoir tout simplement qu'il y a une porte dans ce nightclub qui mène à Apocalypse.
Oh.
Et donc, première rencontre, et quelle rencontre, entre Lex Luthor jeune, du coup, et Darkseid. Et ça donne lieu à des scènes assez savoureuses où Lex Luthor essaye de se payer la tête, tout simplement, de Darkseid, en lui montrant qui est le boss. Ou du moins en essayant de lui montrer qui est le boss, quoi. Et voilà, donc on assiste à toute une association, oui, peut-être, enfin en partie, mais une initiation plutôt de Lex Luthor dans Apocalypse. Franchement, je ne savais pas. Hein. Je ne savais pas que Lex Luthor avait passé du temps comme ça avec Darkseid à ses débuts. Est-ce que c'est une nouvelle, comment dire, bah, en fait, une création de Paul Cornell, quoi, qui nous révèle ça maintenant, ou bien est-ce qu'on en avait entendu parler auparavant? Je ne sais pas. Et justement, Steve, est-ce que tu le sais, toi? Si,
Non, moi ça me dit rien du tout, mais en même temps j'ai pas trop la tête à la bonne place, donc peut-être oui. Moi ça me dit rien là, comme ça.
En tout cas, bon, l'histoire est excellente. J'ai trouvé que les dialogues étaient percutants, que les dessins, le graphisme de... alors du coup j'ai oublié son nom, mince.
Marco
Woody.
Rudy.
Woody, voilà, exactement. Le découpage qui fait vraiment très judicieux et vraiment s'adapte parfaitement à la narration. Donc franchement, très bonne première partie. Et on continue avec une seconde partie qui est encore une ancienne rencontre narrée par Lex Luthor. Une ancienne rencontre durant sa jeunesse, sous la forme là d'une espèce de fable. En fait, c'est la rencontre entre Lex Luthor et Ra's al Ghul.
D'accord. Ben
Et
donc
alors,
vraiment
pareil.
mastermind du crime, quoi.
Oui, et voilà. Et alors, pareil, on s'aperçoit que tous les deux, ils étaient en cheville, que Ra's al Ghul a même pensé à Lex Luthor pour être son descendant spirituel. Peut-être avant même, du coup, qu'il demande à Bruce Wayne de devenir son descendant. Donc, c'est vachement intéressant quand même.
Ça
Et
aurait été un joli couple, Lex-Talia.
mais oui, en plus. Et alors, du coup, bah, en tout cas, là, on voit que Lex n'est pas du tout intéressé par Talia, et pour cause, puisque pour Lex, il y a toujours eu la seule et l'unique Lois Lane, en fait. Mais néanmoins, on voit un truc intéressant. On voit que Lex a fait aussi un petit détour par les fameux puits de Lazare.
Logique.
Oui. Alors, est-ce que c'est ça qui l'a changé aussi? Là, ça ferait une grosse modification quand même aux origines de Lex Luthor. Mais néanmoins, ça a dû avoir un impact sur sa psyché, quoi. Déjà assez dérangé, mais là, ça l'a peut-être rendu effectivement complètement fou. Enfin bref, toujours est-il que l'épisode est aussi bon que le premier. Donc c'est vraiment un annual super sympa.
Qui dessine la deuxième partie?
Ah, pardon, oui, j'ai pas stipulé j'ai pas précisé, pardon. FBNS.
Oh, quelqu'un d'assez connu.
Exactement, oui. Alors bon, alors c'est moins surprenant que les dessins de la première partie. J'ai moins souvent l'occasion de voir Woody en action, mais bah, ça reste très bon, hein, voilà. C'est juste autre chose, quoi. C'est
Ouais,
du
plus
classique.
classique, quoi.
Oui, voilà, exactement. Bien plus classique. En tout cas, ce numéro annual, c'est pas un annual à mettre de côté comme certains annuals. Là, c'est vraiment un bail, quoi.
D'accord. J'irai peut-être le voir si j'ai un petit peu de temps. Mais de toute façon, pour ceux qui suivent Action Comics actuellement avec Lex Luthor, c'est totalement à prendre de toute façon, j'imagine.
Ah oui, totalement. Non, mais de toute façon, ça s'inscrit vraiment dans ce que fait Paul Cornell d'habitude sur le titre. Donc là, ça change pas grand-chose, si ce n'est que c'est des histoires se situant dans le passé.
Malgré tout, ça peut quand même rester dispensable, on n'aura pas forcément besoin de ça pour la suite. Enfin, selon toi.
Bah, je sais pas, peut-être qu'il fera des allusions à ce qu'il nous raconte là-dedans. C'est peut-être pas anodin tout ça.
Ok. Bon, bah on va retourner chez Marvel avec le Running Event Shadowland. Donc, dernière partie, numéro 5, scénario Andy Deagle, dessin Billy Tan, ancrage de Victor Olazaba. Comme je disais, c'est la dernière partie de Shadowland. Que va-t-il advenir de Matt Murdock? Que va-t-il advenir des héros? Que va-t-il advenir de Hell's Kitchen? tout ça, bah, y a les réponses. On ne nous laisse pas sur un vieux twist miteux où finalement il n'y a rien d'expliqué. C'est peu prou ce à quoi on pouvait s'attendre au départ.
Bah oui, voilà, c'était peut-être un petit peu trop justement convenu, quoi.
C'est vrai que Shadowlands décollait super bien, mais arrivé à la partie 3, on commençait à se dire, oh là là, il en reste plus que deux, comment il va pouvoir terminer aussi bien en deux parties, il lui en faudrait 5 ou 6 de plus. Et bah donc c'est ni plus ni moins qu'une assez grosse baston.
Oui.
Mais qui fait son petit effet quand même. C'est sympathique, puisque bon bah spoiler pour personne, hein, on sait très bien ce qu'il advient de la série Daredevil, puisque c'est Black Panther qui va reprendre les rênes. On sait très bien qu'il va y avoir une nouvelle série, une nouvelle mini-série écrite par Deagle qui s'appelle Daredevil Reborn.
Exactement.
Donc voilà, je vais quand même pas spoiler le numéro, mais j'ai trouvé ça très bien, une fin même si attendue, sympathique. Et voilà, donc un bon petit épisode. Je veux vraiment pas trop en révéler, je pense qu'il vaut mieux le lire pour se faire un avis. C'est quand même, je trouve, une série dans l'ensemble à posséder, puisque bah, c'est un tournant majeur pour Daredevil, tout simplement.
Oui.
Le personnage a beaucoup changé avec cette mini, et puis son impact aussi sur les autres héros qui le côtoient, et sur des personnages tels Foggy ou autres, bah, voilà, c'est assez important. Donc non, franchement, pour moi, c'est un bail. On a juste quelques petites pages de preview sur ce qui nous arrive par la suite. Donc la semaine prochaine, After the Fall, enfin Shadowland After the Fall, écrit par Anthony Johnston, qui est une sorte de conclusion, si on veut, à Shadowland, où le personnage principal sera Ben Urich.
Donc, d'accord.
Le regard d'un proche de Matt sur ce qui s'est passé. Il y a 2-3 pages de preview en tout petit, mais on arrive facilement à lire ce qui est écrit. Donc voilà. Moi, ça me donne envie de le lire. En tout cas, je pense que je le lirai la semaine prochaine.
Mais j'y l'ai lu, hein, du coup, parce que je l'ai pris aussi à Shadowland. Et bah, moi, j'aurais un avis un peu plus mitigé que le tien, mais bon. Enfin, je dirais que, en tout cas, ce qui m'a bien plu, c'est cette scène entre Matt et Electra, on va dire.
Ouais, cette scène est bien faite, quoi. Cette scène est très bien faite et,
finalement, ça sauve un peu les meubles d'une fin convenue, je dirais.
Et Daredevil s'en va tel un samouraï, quoi.
Il s'en va comme un prince.
Franchement, enfin, je veux dire, ça reste dans le bon ton, quoi. Pour quelqu'un qui fait partie de The End, finalement, maintenant, c'est une bonne envolée, quoi. Et ouais. Toujours un petit retour aux racines sur la scène finale. Ce qui est, je trouve, très bien pensé.
Mais reste à voir maintenant où tout ça va nous mener, mais voilà. C'est une autre histoire, on en reparlera.
Donc ensuite on aura Black Panther, The Man Without Fear, numéro 513, qui va reprendre donc la série après le dernier numéro de Daredevil qui est sorti cette semaine, le 512. Et puis en janvier, Daredevil Reborn, mini-série par Andy Deagle, qui je pense on va suivre, avec une magnifique cover de Jock. Je trouve la cover de Daredevil Reborn sublime.
Oui.
Celle où on voit sur la ville le dessin du cadavre de Daredevil avec ses bâtons, en fait. Enfin, avec son espèce de grappin, bâton, je sais pas comment ça s'appelle.
Oui.
L'arme de Daredevil, quoi. Voilà.
Oui, son fameux bat de grappin, mais celui de Daredevil.
Voilà, le DD bat de grappin.
Oui, le DD grappin. Enfin, bref.
C'était très mauvais. Mais... Voilà, en tout cas, pour moi, c'est un bail. Cette mini-série est un bail.
Oui.
Dans l'ensemble, de toute façon, même si les deux dernières parties sont quand même moins bonnes que les premières, ça reste super bon. Et c'est un tournant majeur pour Daredevil, je sais que je me répète, mais voilà. Si vous aimez le personnage, vous pouvez pas passer à côté de ça.
Bien.
Voilà, c'est tout pour moi.
Oui, mais ça continue pour moi, par contre. Avec, on repart, non, on reste plutôt, j'ai du mal aujourd'hui, chez Marvel avec Wolverine, The Best There Is. Et The Best Series, pourquoi ? Parce que nouvelle série de Wolverine avec Juan José Rip au dessin et Charlie Hudson au scénario.
Ouais, donc ça promet quelque chose d'assez...
Bah.
Qui tranche dans le vif, on va dire.
Oui, qui va à l'essentiel, quoi. Donc, bah écoute, c'est gore, c'est pas pour les enfants, déjà, première chose, c'est stipulé sur la couverture.
Oui, de toute façon, il y a un parental advisory dessus. Hein.
Oui, voilà. On peut pas le louper. Ça commence au fait par un Wolverine, un Logan plutôt, devrais-je dire, en mauvaise posture, puisqu'il est en cage, gardé comme un chien par des gens qui, au fait, le forcent à combattre dans
Putain,
une
le
espèce.
pauvre. D'un côté, il est en cage, de l'autre côté, il est en enfer. Putain, mais
Et
quelle
oui.
vie de chien, quand même!
Oui, mais c'est ça, mais voilà. C'est vraiment une vie de chien. Et là, comme des combats de chiens, en fait, ils font des combats entre Wolverine, une espèce de mutant qui ressemble à une espèce de vampire, on dirait Morbius, qui aurait muté, enfin, on sait pas trop ce que c'est.
Eh ben voilà, en plus un lien avec Curse of the Mutants. Putain, le mec est raccord quand même.
Oui, mais non, mais en fait, non,
Non.
c'est un peu, un peu n'importe
J'essaye
quoi.
de sauver le truc.
Ouais. Bon, enfin, voilà. Et donc, combat clandestin, Wolverine arrive à s'échapper. Et au fait, il est récupéré par une nana durant son trajet. Alors, j'ai pensé que c'était la journaliste qu'on avait vue dans Weapon X, mais pas du tout, au fait, c'est une nouvelle conquête, encore une, pour Wolverine.
Quel sexe symbole.
Quel sexe symbole, ouais. Et au fait, on s'aperçoit qu'il est poursuivi par de mystérieux individus, tous plus cinglés les uns que les autres, qui, semble-t-il, ont perçu à jour le mystère de sa régénération. C'est-à-dire que, à force d'expérience, il semblerait que ces individus aient pu reproduire, enfin, aient pu produire un sérum, un produit, qui permettrait de se régénérer tel Wolverine, quoi.
Et bien sûr, ils vont l'utiliser à des fins de baston plutôt qu'à des fins curatives
Ah bah,
pour
bien
sauver les
sûr.
gens qui ont le cancer, le sida, ce genre de choses.
Tout à fait, bien sûr, puisque vu la tête qu'ils ont, de toute
Ce
façon,
qui est dégueulasse parce qu'ils pourraient l'offrir aujourd'hui, c'est le Téléthon. Voilà, il y a plein de gens qu'on aurait besoin.
Oui, mais alors je
Oui,
pense que
j'essaye d'être accord avec tout,
oui, mais je
pour une
pense que
fois.
là, le Téléthon, ils ont d'autres préoccupations.
Voilà, bon,
Mais
voilà.
cela dit, c'est bien de le préciser, Steve. Voilà. Envoyez vos dons, pensez-y. Enfin, ce sera un peu tard quand vous aurez le Comics Weekly, mais bon. Ah non, non, remarque. Non, non, on peut toujours, pendant plusieurs jours après le Téléthon. Donc, mais du coup, tu m'as perturbé. Je continue ma review avec Wolverine qui, ni une ni deux, va dans un nightclub. Oh, oh, encore un nightclub,
Et il
décidément.
rencontre Lex Luthor. Ah
Non, il
non.
rencontre pas Lex
Merde.
Luthor, il va
Il rencontre
avec.
Darkseid.
Non, non
Non
plus.
plus. Ah merde.
Il rencontre d'autres vilains qu'on a pu voir dans l'univers Marvel jadis, mais qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Et puis aussi de nouveaux ennemis, enfin bref, c'est compliqué, il rencontre beaucoup de monde. On sent qu'il va y avoir de la baston. Mais alors ce qui est un peu ridicule, c'est le comportement de Wolverine dans cette série. Au fait, par exemple, là, il se met à danser comme un petit gosse. Avec sa nouvelle copine, en disant ouais j'adore cette musique, mais alors il danse, tu sais, limite John Travolta. Donc non,
Mais
franchement c'est.
disons qu'en ce moment, la danse, ça me fait penser à une certaine scène dans un certain film qu'on ne peut pas parler.
Ah bon?
Oui, dont on a parlé en off, une certaine parodie d'un certain Batman.
Ah oui, très belle scène de danse d'ailleurs. Oui
Voilà.
oui 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 oui. Une parodie d'un Batman des années 60. Voilà.
Voilà. Ouais. Bon, je crois que là, on ne peut pas faire plus simple, hein.
Voilà. Donc, avis à ceux qui l'ont vu, c'est vrai que c'était très drôle cette scène. C'était tout l'intérêt résidait dans cette scène, je trouve. Bien sûr. Voilà, on me croit en plus. Donc voilà. Et bah, comme je te
Sans
dis.
mauvais jeu de mots, tu t'enfonces, Benny.
Oui, non, mais sans mauvais jeu de mots, Tiger Shark, par exemple, fait partie
Oh.
de ces anciens ennemis qui refont leur apparition dans cette discothèque.
On l'avait revu il n'y a pas si longtemps que ça dans Deadpool.
Oui, non, mais lui, on le revoit souvent, mais il y en a d'autres. Il y a une espèce de gars qui ressemble à. Bah, je sais pas, je vais pas dire de bêtises, donc je vais pas le dire. Mais il y a d'anciens ennemis, des têtes connues, et un nouveau qui fait son apparition, et qui est à la tête de la bande. Et Wolverine. Bah, Wolverine nous fait un truc à la Daredevil, quoi. Nous fait une fin à la Daredevil. Voilà.
D'accord.
Je peux pas en dire plus. Nous fait une. Voilà, nous termine aussi comme un samouraï, quoi. Voilà.
On fait une derdivolade.
Voilà. Alors, les dessins de Juan Roserip sont, à mon sens, bien inférieurs, malheureusement, à ce qu'il a fait sur No Hero ou Black Summer, avec Warren Ellis. Je sais pas ce qui se passe, mais alors c'est dû à l'ancrage, mais en tout cas, c'est pas terrible, quoi. Wolverine, sur certaines pages, il a vraiment une sale tête. Et quand il danse, il est vraiment ridicule, quoi. Donc bon. Charlie Hudson nous fait de jolis out of character, je trouve, sur du Wolverine. Juan Roserip nous fait des dessins un petit peu en dessous de ce qu'il fait d'habitude, donc pour moi ce sera juste un check-it. Franchement, je suis pas spécialement convaincu par cette première histoire qui a un scénario assez basique et bah, qui n'attirera qu'un public par sa violence, quoi. En fait, voilà. Ceux qui recherchent un comics un peu gore, qui tranche dans le vif, bah voilà. Il y a
As-tu envie d'aller voir le 2?
Bah, quand même, ouais, je vais checker le 2. Voilà, c'est pour ça que ce sera juste un check-it, ce numéro 1, et le 2, je le checkerai. Et puis vraiment, si ça m'emballe pas plus que ça, je continuerai pas. Hein.
Ouais, ça sera un pass, quoi.
Ah ouais. Voilà. Donc, The Best Theories, ouais, bof. Je m'attendais à mieux. Surtout de la part de Juan Roserip, en fait.
D'accord. Bon, bah, on va finir cette semaine avec une dernière review. Adventure Comics numéro 521. Scénario. Alors, bon, comme d'habitude, plusieurs petites histoires. La première, c'est sur la Legion. Le scénario de Paul Levitz, dessin de Geraldo Borges, pardon, et Marlo Alcuizza à l'ancrage. Donc là, bah, on n'est plus vraiment dans le passé comme on a eu ces derniers mois avec Adventure Comics où c'était relativement chiant, pour être honnête. J'avouerais même que le numéro 520 était mais terriblement casse-couille sur la mort de Lightning Lad, puisque bah, bon, pour ceux qui ont lu les épisodes d'Adventure Comics de l'époque, bah, on n'arrivera pas à ce niveau-là de toute façon. Donc voilà, pourquoi refaire encore et même toujours des histoires là-dessus? Je trouve ça un peu chiant. Donc là, je suis content. On est enfin revenu au temps présent et on a un certain Diogène, ou Diogène peut-être, une espèce de truc un peu en forme, qui ressemble un peu à Doop. Enfin, ça m'a fait penser un peu à Doop, le personnage de X-Force, X-Statix. Tu vois de qui je veux parler,
Oui,
mais...
tout à fait. Non, mais
Ouais,
tout à fait. Le petit bonhomme vert, avec
voilà.
le X.
Moi, ça m'a fait penser un peu à ça, qui en fait est venu sur Terre, au quartier général de la Légion, pour choisir un nouveau Green Lantern pour le 31e siècle, puisque ben, voilà, au 31e siècle, il n'y avait plus de Green Lantern. Le dernier, c'était Sodamiat, et il s'est éteint. Donc, il faut choisir un nouveau plutôt que laisser mourir le corps.
D'accord.
Pendant ce temps-là, on a une petite mission d'Invisible Kid, Sunboy, Tellus et Element Lad. Bon, une petite mission qui sert pas à grand-chose, sinon les voir en action, et voilà. On essaye de... En fait, Diogène attend que tous les légionnaires reviennent à la base pour faire son choix. Et donc, bah, en nous montrant cette scène, je pense que Paul Levitz voulait qu'on se demande lequel aurait la faveur de Diogène. Voilà, bon, c'est pas super intéressant. De leur côté, on a Wildfire et Dawnstar qui traquent... Bah, qui font de la traque en fait, qui recherchent quelque chose qui est en train de tout détruire. Ça, c'est plus intéressant. Je pense qu'on aura la suite dans les prochains numéros.
Donc il y a pas mal de subplots, quoi.
Ouais, voilà. Bah, il y a surtout ce subplot-là qui est intéressant, hein, puisque le subplot sur les Green Lanternes trouve sa résolution à la fin. Donc tous les membres, enfin tous les membres, une bonne partie des membres de la Légion reviennent à la base et Diogène fait son choix. Et je dois dire que le choix est assez surprenant, même si finalement pas si éloigné de la dernière incarnation des Green Lanterns du 31e siècle. Je n'en dirai pas plus, je pense avoir donné déjà assez d'indices. Il suffit de réfléchir un tout petit peu et on arrive à comprendre. C'est un choix qui, je trouve, est super intéressant,
Oui.
qui permettra à un personnage que l'on connaît bien de briller encore un peu plus. Et je trouve que ça lui fera pas de mal.
D'accord. Donc,
Voilà.
franchement, un bon numéro, quoi, parce que
Bah,
c'est...
non, le numéro est chiant, mais honnêtement, il est longué, ça traîne vraiment jusqu'à cette révélation de qui est le nouveau Green Lantern du 31e siècle. Et là, par contre, je dois dire, en plus, le changement de costume est juste magnifique.
Donc, la suite promet, en tout cas.
La suite promet. Donc, franchement, cette histoire de la Légion est intéressante juste pour ce choix, quoi. Donc,
Mais
le choix.
c'est du old school hein, quand même. Paul Levitz, c'est vrai qu'il écrit pas forcément.
Ouais, enfin,
C'est pas fluide, quoi.
c'est pas le problème que ce soit old school ou pas, c'est juste que c'est pas intéressant. Voilà, donc voilà, old school ou même moderne, enfin je veux dire, quand une histoire est pas intéressante, qu'elle soit écrite en façon old school ou façon moderne, ça change pas grand-chose, quoi. Donc voilà, moi j'ai bien aimé ce choix, je suis super content pour ce personnage-là qui est un peu plus encore, même si le reste de l'histoire m'intéresse moyen, quoi. Il y a juste le subplot Wildfire Dawnstar qui est peut-être pas mal, faut voir ce que ça va donner.
Et tu penses que la suite va quand même être bien?
Ben j'espère.
D'accord.
J'espère, sachant que ben là je vais passer au backup, qui est le backup sur Atom,
Ah oui. Jeff
écrit par
Lemire.
Jeff Lemire, Mahmoud Asrar au dessin et John Dell à l'ancrage. Le backup, c'est le dernier, puisque on le sait, à partir du mois de janvier, il n'y aura plus de backup dans les comics de DC, ils font tous 20 pages. Donc c'est-à-dire que le prochain numéro d'Adventure Comics, ce sera uniquement la Légion. Alors je pense qu'il était grand temps pour Paul Levitz de revenir au temps présent, d'arrêter de nous faire des histoires qui se passent dans le passé, qui n'auront aucune incidence sur ce qui va se passer, quoi qu'il arrive, et puis d'essayer de réattirer un peu les lecteurs, parce qu'à mon avis, si le titre garde cette qualité, bon, encore ce numéro-là, ça peut aller. Mais s'il garde la qualité des numéros d'avant, on va pas aller bien loin et le titre va vite s'arrêter, quoi.
Oui, d'accord.
Voilà. Donc le backup sur Atom, eh ben, alors déjà au niveau des dessins, je trouve que Mahmoud Asrar a peut-être un peu plus rushé que d'habitude. C'est un peu moins bon. On sent vraiment le côté speedé. Il y a très peu de fond. Il y a, voilà, c'est pas top top, honnêtement. Déjà. Donc comme je disais, c'est le dernier backup, mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'histoire continuera en mars dans un Atom spécial numéro 2. Parce qu'on a vu un Atom spécial numéro 1 qui nous lançait l'histoire. Juste avant que ça soit un backup dans Adventure Comics, et on aura la fin dans un autre, dans un deuxième spécial. Bon, l'histoire avance, hein, il y a toujours donc, enfin, Atom est piégé avec son oncle Dave dans cette fameuse ant farm.
Rien à voir avec le chanteur, hein, bien sûr.
Non, rien, rien, surtout pas. Oh là là. Mais pourquoi à chaque fois? Pourquoi?
Ah, des références, des références.
Tu me donnes des cauchemars à chaque fois. Je mets 3 jours à m'en remettre et hop, on a enregistré. Hop, j'en reprends 3 jours de cauchemar. C'est terrible.
Après les Destiny's Child.
Au secours. Au secours. Bref, bah, franchement, c'est toujours bon, quoi. C'est toujours bon. Atom se retrouve encore une fois dans une situation catastrophique.
Il va du côté de chez soi.
Ah, putain. J'ai envie de mourir. Et donc bah Jeff Lemire a le talent pour nous faire des cliffhangers où à chaque fois tu te dis il va jamais pouvoir s'en sortir, et pourtant il s'en sort.
Et pourtant.
Bref, bah ça c'est très sympa. Donc je suis vraiment déçu de voir le backup partir. Je me dis que Paul Levitz a intérêt à sacrément relever la barre pour que Adventure Comics continue de se vendre. On termine vite fait avec un petit preview de Weird Worlds numéro 1 qui sortira en janvier. On retrouve 3 pages à chaque fois sur des petites histoires qui auront lieu dans Weird Worlds. Une histoire sur Lobo, une histoire sur Garbage Man, une histoire sur Tanga, et avec des gens comme Jerry Ordway, Aaron Lopestri ou encore Kevin McGuire. Et donc ça a l'air sympathique. J'irai peut-être voir du coup Weird Worlds, qui honnêtement m'intéressait pas plus que ça au départ, mais. Là, franchement, ça me donne envie de le lire. Notamment pour l'histoire sur Lobo, qui a l'air assez sympathique. Voilà, donc un numéro qui... Disons que c'est qu'un check-it, quoi. C'est qu'un
D'accord.
check-it parce que, malgré tout, l'histoire principale sur la Legion, à part le choix des gris de qui est le nouveau Green Lantern, bof, quoi. Voilà. Donc,
Ok.
pour juste, s'il y avait... Enfin, si le numéro avait été un peu plus intéressant, ce choix pour moi c'est un total bail, juste à cause de ce choix, mais dans l'ensemble le numéro est assez moyen, donc check it quoi.
Ouais, et puis on espère que Jeff Lemire reviendra à The Atom très vite.
Ouais, bah de toute façon on peut toujours le retrouver sur Superboy qui démarre très bien, en tout cas.
Ah oui, ouais.
Donc bah c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Comics Weekly. Vous pouvez toujours nous laisser des commentaires sur le site, nous envoyer des mails à l'adresse podcast@comiccity.fr ou nous laisser un message sur le répondeur au 09 70 440 497. Et comme d'habitude, on se quitte avec le mot de la fin de Benny ou les
Alors,
mots
ça va
selon
durer.
ce que tu m'as dit.
Oui, ça va durer un peu plus longtemps que d'habitude, ça va être plus d'un mot, parce que hier, en fait, je discutais avec Kiwi, puis on parlait des moteurs de recherche. Et ouais, j'ai eu l'idée grandiose d'aller voir quand même le moteur de recherche Comicity pour savoir ce que les gens avaient tapé pour nous trouver. Et là-haut, surprise, j'ai trouvé des trucs extraordinaires, Steve. Alors, je vais t'en citer quelques-uns quand même. Alors, par exemple, il y avait, bon, divers Comicity, plus ou moins bien orthographiés, dont un très beau Vomixity.
Ah ouais. Bon, le C étant à côté du V sur le clavier, bon. Mais
Oui.
Vomit City, j'avouerais que j'avais eu l'idée pour un spécial. Bref, c'est pas
Voilà,
grave.
un spécial Millard, bien sûr.
Oh non, et je ne l'ai pas dit.
Oui, mais c'est pas grave, tu l'as pensé tellement fort que je l'ai entendu. Donc, il y avait un très beau pour toi, Spider-Man, Nior, Blog, Steve, Comics. Voilà. Alors, dans le rayon bizarrerie, il y a quand même quelqu'un qui a trouvé Comic City en tapant Ultimate Surprendre Woman.com. Je t'assure que c'est vrai, hein, tu peux vérifier.
J'essaie de chercher un lien, mais je n'en trouve pas.
Voilà. Sinon, on a eu un joli Wonder Woman triste. Bon, On va la consoler, c'est pas grave. Histoire d'horreur à raconter. Donc ça, c'est peut-être en référence à un fameux épisode d'Halloween. Alors, il y a eu
J'imagine
aussi...
quelqu'un qui raconte des histoires d'horreur en parlant des Comic City, ça me fait peur.
Oui, alors, il y a eu aussi un très très beau et classique Scarlett Johansson latex.
Ah bah c'est sûr qu'on en parle très souvent sur le site d'ailleurs.
Voilà.
Je
C'est un petit
comprends
peu
pas comment on a pu tomber sur nous comme ça, mais bon,
notre
voilà.
marque du commerce, voilà. Donc, quelqu'un est arrivé comme ça en faisant une faute à Johansson, mais bon, peut-être les mains prises. Bref.
Oh,
Oh.
oh, oh,
Oh. Tu le couperas peut-être, je ne sais pas.
ah non.
Ah non, bon d'accord. Alors, et voilà les deux meilleurs, donc ceux qui nous ont fait le plus rire, Kiwi et moi, hier soir. Un très joli, quand même, c'est quelqu'un qui nous a trouvé comme ça. Comic City de merde.
Ok, merci.
Donc voilà,
Ça fait
merci,
toujours plaisir.
monsieur. C'était quand même grandiose. Et puis alors, le mieux, je trouve, c'est quelqu'un qui a tapé, je te le livre, le fameux cri de Bruce Lee.
Ah oui, je vois à quel
Et
article
oui,
cela fait référence.
le fameux cri de Bruce Lee, c'est sûr qu'on trouve Comic City en tapant le fameux
Mais
cri de
oui, eh
Bruce
ben
Lee.
oui, on peut, puisque je vois très bien l'article auquel cela fait référence.
D'accord, ok, mais voilà, donc ça m'a fait bien rire de passer en revue tous ces, bah comment dire, ces mots de recherche.
Ah oui, c'est quand même très fort.
C'est quand même extraordinaire ce qu'on peut trouver parfois. Oui. Bon, bah voilà, en fait, j'ai fait une petite sélection des meilleurs, donc on va se quitter avec bah, peut-être le fameux cri de Bruce Lee, je pense que...
Voilà.
D'ailleurs, si tu peux le faire, Steve, je pense que tu es en forme pour le faire.
Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je parle du nez, non, j'en peux plus.
Donc voilà. En tout cas, voilà, toute une sarabande de mots, tous plus farfelus les uns que les autres. On en citera peut-être d'autres.
Moi, j'ai quand même une petite préférence pour Comic City de merde. Je
Comic
l'avouais.
City, merde. Ou Vomit City. D'ailleurs, c'est dans le même registre, on est sûr.
Oui, on reste dans le registre catho chez nous.
On remercie nos fans qui nous adorent, visiblement, puisque...
Bien, bon bah à la semaine prochaine les gens hein. Et faites-nous bien des mots de recherche.
Oui, voilà, exactement. Plein plein de mots de recherche. On adore.